Voilà, comme ça. Oui, ça va.
Alors, la caméra,
pas de côté.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
Che fa? Aggredisci.
Ma passato forte, che fa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi. Retour en fanfare pour les petits chats du cinéma. Vous êtes à bord de la navette spatiale Cinémascope qui vous offre une vue panoramique exceptionnelle sur le cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, pour nous parler des films à l'affiche, mais oui, mais pourquoi pas, j'ai le plaisir d'être en compagnie de trois amis et d'un chat. Alors, qui est qui? Je ne sais pas. Voilà. Olivier.
Bonjour tout le monde.
Véro.
Bonjour à tous.
Mathieu.
Salut à toutes et à tous.
Et Alexis.
Bonjour.
Et puis, bah, le cinquième, quand même, derrière la vitre.
Miaou.
Oh, bonjour Sylvain. Ça va? On est ensemble aujourd'hui pour parler de cinéma laiton, de cinéma français, de comédie, de drame, d'animation, de sentiments, de réflexion. Comme toujours, on lésine pas sur la pluralité dans le Cinémascope. Et on va discuter de trois amis en fanfare, Flo et la plus précieuse des marchandises. Et on commence évidemment tout de suite en fanfare.
Tenez, large.
Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin, je veux dire, merde.
Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous.
Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui?
Oh là, ben voilà, c'est ça. Ben non, c'est le début, on place les ingrédients. En fanfare, donc, d'Emmanuel Courcol, avec Benjamin Laverne et Pierre Lottin, qu'on a entendu. Vous êtes trois à être allés le voir. Mathieu, on commence par toi. Est-ce que tu peux déjà nous raconter de quoi ça parle?
Ben oui, alors En fanfare, c'est l'histoire, c'est une histoire de famille et un peu de destinée, en tout cas l'histoire de deux frères qui ne se connaissent pas encore. Et alors, j'ai pas trop envie de trop en dire parce que je suis allé avec beaucoup de surprises. Alors, on va dire qu'un frère est touché par un petit malheur de santé, un gros souci de santé où ça va l'amener à découvrir qu'il est issu d'une autre famille, voilà, qu'il a été adopté. Et ça va le remettre sur le chemin de son réel frère. Et de là, il va y avoir un lien qui va se créer. Thibaut est un grand chef d'orchestre à l'international où il va accompagner différentes compagnies et composer. Son frère Jimmy a été recueilli dans une famille beaucoup plus modeste où il a son travail en usine et fait aussi de la musique dans une harmonie. Voilà. Ouais. Comme il dit, ce n'est pas une fanfare, c'est une harmonie. Et donc les deux vont apprendre à se connaître, deux mondes différents et pourtant tellement de points communs. Et la question de la bizarrerie de la vie, les choix que l'on fait et les choix qui sont amenés à nous sans qu'on le contrôle. Et si moi j'avais été pris dans cette famille, quelle aurait été ma vie et vice versa. Et les questions se posent, elles sont belles. C'est une belle histoire de complicité entre frères, sans tomber dans une critique quelconque de la société ou un pathos dû à... C'est un film quand même assez dramatique. Mmh. Et c'est un film qui... Voilà, le jeu des acteurs, il fait pour beaucoup, et l'écriture, mais on est dans un film où la relation des frères, c'est vraiment le noyau du film, marche extrêmement bien pour moi. Mmh. Et d'après, on en a parlé en off, je pense que je ne suis pas le seul, et c'est toute la force du film. Il y a des moments qui vont tirer les spectateurs aux larmes sans forcément... dire que sans désespérer, il n'y a pas de message pour désespérer, il n'y a que des messages pour dire des fois dans la vie, il faut croire aux gens qui nous aiment et il faut y aller, quoi. Parce que c'est la plus belle des choses. Ça parle de musique, ça parle d'union, ça parle de...
Un film utile, en quelque sorte.
Ben oui, le cinéma, c'est un mélange d'art. Et là, il allie à la perfection, je trouve, la musique. Et il porte un message de la musique. La musique, c'est un art de métissage, de mélange. Et là, on n'est pas dans le mélange des styles, on est dans le mélange des âmes. Et on a vraiment deux âmes différentes qui vont se réunir grâce à la musique, et je trouve ça très beau.
Ça y est, là, tu t'échauffes. T'as eu un petit peu de mal à commencer, mais ça y est, là, t'es chaud. Donc, l'union des âmes. Qui veut rebondir, Alexis?
Si je peux rebondir, c'est juste un mélange de classe sociale aussi, hein, parce qu'ils sont,
oui,
sont pas...
disons les choses,
voilà,
clairement.
C'est pas éduqué dans le même univers, et la musique les réunit, hein, complètement. Et moi, c'est ce que je retiens. Alors, il y a peut-être une petite part de naïveté, mais qui reste pleine d'espoir, et ça permet de pas déprimer devant le film, ce qui reste une comédie. Alors, je sais pas s'il est considéré comme comédie dramatique ou comédie, je sais pas, mais moi j'aurais dit comédie dramatique. Mais justement, je pense que c'est un peu le film, la comédie de la fin d'année, hein, clairement. Moi, j'invite les gens, aux spectateurs, à venir le voir. Et il faut pas oublier que c'est le réalisateur d'Un Triomphe, premier film de mémoire, c'était Un Triomphe, qui avait pas
en
eu
2021.
beaucoup de promotion, pas beaucoup de succès
qui ne l'avait pas eu.
Oui. Et le film était très bien également, donc il est dans sa lignée de ce qu'il fait. Voilà, si tu veux rajouter.
Oui, moi je voulais souligner la place évidemment importante qu'a la musique dans En Fanfare. C'est-à-dire que de même qu'il est, Mathieu l'a suggéré, sans effectivement en dévoiler plus, il est question de sang qui irrigue les organismes, et là c'est la musique qui irrigue le film, pour une raison en particulier, c'est que toutes les musiques sont considérées à un petit peu à égalité. Ça va de Dalida, hein, Laissez-moi danser, jusqu'à la 3e symphonie de Mahler, le boléro de Ravel, Johnny Hallyday éventuellement, en passant par le jazz, Earl Garner, Miles Davis, et puis aussi Michel Petrosian, qui s'est occupé de la musique, a composé pour le film la petite symphonie qui s'appelle Quadrature 1 et Quadrature 2, que Thibaut dirige, et qu'il est, lui, Thibaut, censé avoir composé lui, et qui est un morceau que j'ai encore réécouté hier soir, c'est la musique contemporaine, mais alors on a vraiment un déploiement de toutes les musiques qui ne se jugent pas les unes les autres et se vivent profondément comme l'irrigation par le sang, quoi.
Ah,
si
ça
vous
c'est intéressant.
Et ouais. je trouve que c'est pour le coup un film qui fait jouer un rôle extraordinaire à la musique. Ouais.
Oui, en plus, c'est super parce que tu as parlé de la notion de jugement. Donc, les deux frères, deux catégories sociales totalement différentes. L'un se méfie de l'autre parce que l'autre se sent carrément, on va dire, beaucoup plus bas à l'échelle sociale ou culturelle. Je veux dire, pour plein de raisons. Et en fait, on se rend compte que la limite, elle n'est pas aussi simple que ça et que... Oui, il y a une notion de jugement et de peur de...
C'est d'ailleurs beau parce que donc Jimmy, il est trombone dans une harmonie du côté de Turquoin, hein, Roubaix, quoi. C'est comment Roubaix,
oui,
comme Turquoin.
C'est comme Turquoin. Ouais.
et Thibaut, il est quand même le directeur et chef d'orchestre de l'orchestre de Cleveland dans l'Ohio, quoi. Ouais. Donc on est vraiment... Et en fait, il pourrait presque... Le film suggère qu'il pourrait presque échanger leur rôle. Enfin, il y a ces sujets. Et alors, si deux secondes pour rajouter que Benjamin Lavergne est batteur, guitariste, il fait un peu de piano. Donc, il a pris des cours de direction d'orchestre. Et Pierre Lottin, il est pianiste depuis longtemps et il a pris des cours de trombone. Donc, si vous voulez, il y a un réalisme dans le vécu de la musique par les acteurs qui augmente l'importance de la musique dans le film, je pense.
Et pour ajouter, ce qui est paradoxal aussi, c'est que le frère qui est bas dans la classe sociale, c'est lui qui a l'oreille absolue,
ouais,
et l'autre non, en fait, et c'est à force de bûcher que lui, il arrive à ce niveau-là.
Ne dévoilez pas tout. Allez voir, puisqu'il est à l'affiche dans enfin, dans plusieurs cinémas. Il est au Navire et à Rions en ce moment. La semaine prochaine, il sera au Vivarais et à Rosières. Donc, allez voir En Fanfare. On continue, justement, alors il y avait de la musique dans la bande-annonce, mais un film sans parole et sans humain, donc sans bande-annonce. C'est Flo, le chat qui n'a plus peur de l'eau. Et Véro, tu viens nous en parler.
Oui, alors ce film, donc c'est le deuxième long métrage. Alors je vais me risquer à prononcer son nom et je suis désolée pour toute sa famille, Ginzel-Zilbalodis. Donc son deuxième long métrage, on l'avait découvert avec le film Ailleurs, qui était dans la même veine, à savoir un film d'animation fait avec peu de moyens, mais qui fait la part belle à la narration visuelle. Et c'est pour cela que le réalisateur a fait le choix, dès le début de sa carrière, de se passer de dialogue. Alors, quand je dis faible moyen, c'est-à-dire qu'il a fait le choix de se servir d'un logiciel gratuit, ce qui lui a permis d'avoir plus d'argent pour payer une équipe. Il est préféré avoir plus d'humains que de technologie sur son film. Et ça se ressent vraiment au niveau du traitement de l'image de fond, donc de l'image des décors. C'est complètement immersif. C'est vraiment une expérience immersive par la fluidité du mouvement. J'aurais pu commencer simplement par le synopsis aussi. Donc c'est un chat qui se réveille dans un univers envahi par l'eau. On comprend assez vite que toute vie humaine semble avoir également disparu. Et voilà, on part sur, c'est une vraie aventure épique. Il croise d'autres animaux. On voit comment les animaux, effectivement, évoluent dans ce nouveau monde. Et ce qui a sans doute fait qu'il a reçu de nombreux prix au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2024, c'est un traitement particulier donc du graphisme qui est différent pour les fonds, qu'on pourrait, enfin, sans vouloir choquer personne, ça peut nous rappeler un peu du Miyazaki quand même, hein, ces grandes, surtout ces tons, et on est vraiment dans le bleu, on est dans le vert, on est, etc. Et le traitement des personnages qui sont plus inspirés du style de jeux vidéo. Voilà, avec une petite pixelisation, voilà. Donc c'est un récit épique, c'est une fable écologique, et c'est surtout une merveille pour spectateurs de tout âge. Alors tout âge, il est quand même recommandé à partir de 8 ans, parce que il y a la durée aussi, hein, quand c'est des films qui dépassent une heure, il faut quand même avoir un certain âge pour bien les apprécier. Mais surtout, voilà, tous les adultes qui l'ont vu y ont passé également un bon moment. Donc c'est encore un film qui prouve que l'animation, ce n'est pas juste les dessins animés pour les petits enfants, et qu'on vit des aventures différentes. Ça permet un traitement différent, ça permet de montrer des choses que l'on ne ressentirait pas de la même façon en prise de vue réelle.
Exactement. Et d'ailleurs, Véro, je ne sais pas si pour les auditrices, auditeurs qui ne te connaissent pas, tu travailles à la Maison de l'Image, et donc tu étais évidemment sur le chantier de ces rencontres des cinémas d'Europe, et où il y a eu la part belle au cinéma d'animation, au cinéma d'animation qui est du cinéma, des films avec des narrations particulières et qui s'adressent, comme tu le disais, à des adultes, à des ados, à des enfants, à tous en même temps. Et c'est vrai qu'on a eu un beau florilège là pendant les rencontres des cinémas d'Europe. Toi, Olivier, tu es un adulte qui est... tu as vu Flo.
Ah oui. Oui, j'ai vu Flo parce qu'il faisait partie des 4 films sélectionnés pour le jury Bouche de l'art. Qui a obtenu finalement le prix. C'est le Royaume qui est sorti. Donc il y avait Flo que j'ai vu. Alors effectivement, comme le dit Véronique, il y a un contraste entre le graphisme des fonds et le graphisme des personnages. Mais d'une certaine manière, ça nous aide peut-être à nous immerger nous-mêmes dans le fond, quoi. D'une certaine manière, il y a beaucoup de philo, parce qu'il y a, évidemment, on parle de ce qu'on sait à peu près. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions posées sur ce que c'est que l'intelligence humaine, c'est-à-dire l'intelligence réflexive, etc., la communication, le langage. Et Véronique, quand elle présentait le film aux rencontres, elle disait qu'on allait presque, les spectateurs allaient presque se faire les dialogues dans la tête. Et c'est vrai que, sans dire qu'on a les dialogues, qu'on formule les dialogues dans la tête, mais c'est comme s'ils parlaient. parce que leur interaction est suffisamment pertinente, les mouvements des animaux, je veux dire le chat bien sûr, mais les autres aussi, est tellement bien attrapé quoi, que on croit aussi à leur interaction. Et donc effectivement, ça glisse très très bien, et ça c'est un point de départ à pas mal de réflexions, je crois, sur la réflexion justement.
Ouais. Bah super. Flo, tu veux rajouter un mot ?
Oh non, simplement que c'est voilà, allons le voir. C'est également porté par une musique sensationnelle, hein, qui emmène. Ça emmène, c'est épique. Voilà, c'est un voyage. Il faut se laisser porter, alors par les eaux ou par le bateau. Mais en tout cas, voilà, c'est une expérience de cinéma. C'est une expérience à voir sur grand écran, bien évidemment.
Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, c'est un film qui est actuellement au Teil, à Barjac, et qui sera bientôt au Vence. Voilà, Flo. Et ben, sans transition, je crois qu'il n'y en a aucune. On va du côté du cinéma français, d'une comédie sentimentale.
T'as plus envie de... Enfin, je n'ai plus jamais envie de faire l'amour avec moi.
Alors moi, s'il faut te dire la vérité, j'ai jamais été amoureuse d'Éric.
C'est vrai, mon ami.
Et toi, mon cœur.
Il croit que je l'aime exactement comme lui-même. On dîne ensemble demain soir, t'as pas oublié?
Mais non, demain, je peux pas.
Rebecca vient pas?
Ah non, tu vois encore Monsieur X?
Monsieur X.
Je l'appelle comme ça parce qu'il est marié. J'ai l'impression que ça la gêne.
Waouh.
Je suis grossière, moi, hein, si je prends deux petits déj chaque matin.
Ça t'irait très bien d'être plus gros.
Ça te plairait?
Ouais.
Il y a des gens qui se séparent et qui retrouvent vite quelqu'un.
Oui, bah il y a aussi des gens qui rencontrent jamais plus personne, hein. Tu peux encore faire un geste pour me retenir, là.
Trois amis de Emmanuel Mouret avec Camille Cotin, Sarah Forestier, India R. Ce sont les trois amis. Tu es allé le voir, Alexis.
Et oui, je suis allé voir le nouveau film d'Emmanuel Mouret. Et c'est mon premier film d'Emmanuel Mouret. Et oui, parce qu'en fait, je n'étais pas attiré par son cinéma a priori. Et je me suis laissé tenter. Je suis allé. Les trois actrices me donnent envie d'aller voir le film. L'histoire me paraît cohérente, donc je me suis laissé entraîner. Et résultat des comptes, j'ai plutôt apprécié. Le film donc raconte l'histoire de trois amis qui ont des destins un petit peu entremêlés face à des histoires d'amour qui leur sont propres chacune. Donc elles ont une amitié entre elles qui leur permettent de survivre un petit peu aux histoires d'amour qui vont tout au long du film être on vont avoir leur lot de surprises, on va dire ça comme ça, je vais pas trop en dire. Alors le film va traiter plutôt de la définition de l'amour. La définition de l'amour, c'est quoi? Comment on aime? Parce que chaque personne aime différemment. Qu'est-ce que ça veut dire le mot « je t'aime » C'est tout de suite, quand on dit « je t'aime », c'est mettre la pression à quelqu'un. C'est tout de suite dire « est-ce qu'il faut que je réponde à ce message-là » Et en fait, ça va être la question de l'intrigue principale, parce qu'en fait, on suit une intrigue principale et autour, les deux amis autres, donc on suit Alice et ses deux amis qui sont, elles, ont des histoires romantiques un petit peu plus légères, on va dire, qui permettent de contrebalancer avec l'histoire dramatique que va vivre Alice, qui va essayer de survivre, de vivre quelque chose, enfin va vivre un drame et va essayer de vivre avec ce drame-là une espèce de culpabilité, et cette culpabilité-là va l'empêcher en fait d'aimer et de s'ouvrir à quelqu'un. Et ses amis, elles, à côté, vont avoir des relations qui sont plus ou moins on va dire belle et moins belle, on a moins envie d'aller vers cet amour là ce qui va faire que en fait conclusion de l'histoire, c'est que est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans cette société là on peut aimer? La question, ouais. Et je vais même vous dire que moi, quand j'ai vu ce film-là, il y a eu un mélange de genres qui s'est un petit peu passé, c'est-à-dire qu'on a un peu de fantastique, on a un peu de drame, on a un peu de comédie. Et en fait, je me suis dit, mais ça me fait penser à quelque chose, tout ça. Ça me fait penser un petit peu à du Woody Allen. Et en fait, effectivement, j'ai été voir dans les anecdotes de tournage. Et en fait, Emmanuel Mouret s'est inspiré du film Alice de Woody Allen, dont
d'où le nom
Alice. Voilà. Donc, je me suis pas trompé. Je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose. Et en fait, ce film retrace vraiment la définition. Moi, je vais dire ça, la définition de l'amour
et du désamour,
exactement. Mmh. Et de dire que les éléments de la vie, au final, on vit tous avec ça, on vit tous avec des drames, on vit tous avec des choses heureuses, et au final, on continue à vivre, quoi qu'il arrive, et on continue à aimer. Et c'est un petit peu le message qu'Emmanuel Mouret veut nous faire passer. Alors, je vais dire que c'est pas le film de l'année, c'est pas le grand film, on passe un bon moment, et j'encourage les gens qui ont envie d'un peu de dramer de légèreté, on va dire, d'aller voir ce film-là, et voilà.
Si ça peut donner envie de continuer à vivre, ça vaut le coup.
Et d'aimer.
Et à aimer, oui, c'est ça. Il
faudrait peut-être le passer dans certains services hospitaliers, je sais pas.
Non. Allons voir. Et ça t'a donné envie, juste, alors, c'est du cinéma sur petit écran, mais Arte repasse, justement, il y a plein de films d'Emmanuel Mouret, si vous les refaire. Du coup, ça t'a donné envie, et qu'ils ne passent pas encore au cinéma.
C'est ça, et c'est un cinéma très minimaliste, vraiment, où on s'attarde très peu sur le décor, plutôt sur les personnages, avec beaucoup de dialogues. Donc déjà, il faut être habitué à avoir une certaine cinéphilie sur ce domaine-là, je pense, pour apprécier le film.
Merci en tout cas, trois amis d'Emmanuel Mouret, est à voir à Privas et Rue 11. Et la semaine prochaine, il sera au Teil. Et on va terminer encore avec un film français, mais qui nous parle de toute autre chose.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour,
La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. On a entendu la voix de Jean-Louis Trintignant. Véro, ce film. Donc, on a entendu la bande-annonce, ce qui laisse un petit peu suggérer, mais pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas vu la bande-annonce, c'est animé, justement.
Oui, pour moi, ça a été une grande découverte cette année, ce film de Michel Hazanavicius. Effectivement, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est le réalisateur oscarisé de The Artist, de OSS 117, et donc qui arrive avec son nouveau film, et à la surprise générale, qui est un film d'animation. La démarche de départ a été l'adaptation du roman de Jean-Claude Grimbert, qui est un ami de la famille de ce réalisateur. Donc il a eu l'honneur de découvrir le livre avant même sa sortie, et c'est un sujet qui le touchait de par son histoire familiale. Il a été très inspiré, et quand il a réfléchi à l'adaptation, pour lui il lui semblait essentiel de passer par l'animation pour créer de la distance, parce qu'il ne... Voilà, pour l'avoir entendu en parler au Festival de l'écrit à l'écran à Montélimar, il a expliqué que pour lui, certaines images à faire jouer par des acteurs détournaient trop de la réalité. D'où le passage par l'animation. Lui-même étant un dessinateur amateur, il s'est lancé.
Et c'est ça qui est étonnant. Ouais.
Alors, il a découvert tout un monde, parce que c'est un monde particulier, le monde de l'animation. C'est pas du tout les mêmes codes, les mêmes métiers que dans les prises de vue, dans le cinéma de prise de vue réelle. Donc, il a dessiné tous les personnages, tous les figurants, les seconds rôles, etc. Et ensuite, il a mis ça dans les mains de professionnels animateurs. Et il a suivi toute la réalisation, parce qu'on est réalisateur de... réalisateur de films d'animation, parce que on fait des choix de mise en scène, on fait des choix de jeu d'acteur, des choix d'angle de vue, etc. Donc là, c'est vraiment la partie technique. Quand il s'est agi des voix, donc il est parti chercher des cadors, quand même. On a
Dominique Blanc, Podalides,
Jean-Louis Trintignant. Donc il les a fait, Gadebois, il les a enregistrés en première lecture, puisqu'il avait déjà écrit les dialogues. Ça a aidé à la fois les animateurs à faire bouger les personnages. Et une fois que toute l'animation a été faite, il a réenregistré les voix pour que les acteurs collent encore plus aux personnages qui avaient été mis en mouvement. Alors ça, c'est la partie technique. Le pitch, c'est un conte, puisque ça commence, comme on a entendu, par Il était une fois, qui aborde le sujet de la Shoah. Qui montre des images de la Shoah, mais qui est aussi le film souhaite aussi célébrer les justes, ces hommes et ces femmes, tout un chacun qui ont sauvé des vies au péril de leur vie. Voilà, donc c'est tout ça, le film. Ce film est, comme tu disais tout à l'heure, un film utile. C'est un film qui doit être montré. J'ai moi-même été interrogée par beaucoup d'enseignants, puisqu'il était programmé aux rencontres, pour le passer à des groupes. Quand même, on le préconisait à partir du collège avec un accompagnement. Voilà, clairement, parce qu'il y a quand même des images que l'on a tous en tête, des photos, donc de ce sombre moment de l'histoire. Mais en même temps, il a souhaité, et moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est un film qui parle de quelque chose de très sombre, mais qui va vers la lumière, qui va quand même vers cet espoir que dans ce monde dégueulasse, il y a eu quand même des jolis actes et des belles choses qui ont été menées, et des vies qui ont été sauvées. Donc c'était ça aussi qu'il souhaitait montrer. On peut juste aussi noter la présence d'Alexandre Desplat pour la composition de la musique. Donc, compositeur multi-oscarisé, multi-césarisé. Et c'est vrai que la musique prend une grande place. On la reconnaît, cette musique d'Alexandre Desplat. Il est très présent.
C'est pas Véronique.
Voilà, c'est ça. Et je vois, vous ne le voyez pas, mais moi, je vois la mine d'Olivier.
Olivier lève les yeux au ciel. Olivier lève. Alors, Olivier. Donc, mais c'est toujours. C'est aussi un film d'amour qui célèbre l'amour et la vie.
Complètement.
Olivier, peut-être on passe sur la musique.
Un mot sur la musique pour expliquer quand même mes simagrées là. Effectivement, Alexandre Desplat, il fait des musiques de films comme moi je fais des je sais pas quoi, des sablés quoi. J'ai regardé en 2013, il a quand même sorti 6 musiques de films, par exemple. Et moi, en écoutant la musique, que j'ai écouté, j'ai écouté l'album, quoi. En écoutant la musique, j'ai trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à des musiques qu'il avait faites pour des films qui n'ont rien à voir, comme Coco Chanel, Monument Man, La jeune fille à la perle.
Veux dire que c'est interchangeable ?
J'ai trouvé. J'ai trouvé que tu changes un peu les instruments, et puis tu gardes en gros les mêmes thèmes. Peu d'harmonisation, et puis emballer, c'est peser.
Voir En fanfare pour la musique.
Carrément, oui. Ah oui, parce que dans En fanfare, il y a une leçon sur ce qu'est la musique, ce qu'elle permet. Là, alors Véronique va peut-être pas être contente, mais là, si vous voulez, j'ai eu l'impression d'abord la musique. Le film fait 120 minutes. Le film fait 1h20, pardon. Fait 1h20, oui, c'est ça. Et la musique, elle fait 45 minutes. Donc ça, c'est très très.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Autant ce film, il est magnifique au niveau du traitement de l'image, au niveau des messages qui sont passés, des choix esthétiques, et autant la musique,
ça fait un peu emballage, je trouve.
Exactement. C'est comme si un film d'animation... C'est peut-être l'écueil de Michel Hazanavicius qui vient pour la première fois vers l'animation, de penser que la musique est un apport, est nécessaire quand on fait de l'animation et que l'image en elle-même n'apporte pas suffisamment au niveau confiance de l'émotion. Alors qu'en fait, ça suffisait largement. Les émotions, on les a. On est touché, on est bouleversé, on pleure. Faut dire ce qui est. D'où l'accompagnement pour des enfants de 10-11 ans quand même nécessaire. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'écueil effectivement de cette musique très présente et pas nécessaire obligatoirement.
Et pour terminer, puisqu'il nous reste très peu de temps sur le film.
Pour les rencontres, on a pas mal parlé avec Demoinck, avec Lucille Piquenot, j'avais fait des abécédaires à chaque fois. Donc on parlait des BO, des films d'animation, et c'est vrai que ça mérite d'être travaillé au niveau des voix et des bruits et des sons autant qu'au niveau des musiques, parce que sinon on a un peu l'impression que c'est pour faire passer le truc. Bon, ceci dit, donc il y a, je reviens sur ce que disait Véronique en citant Zanavicius, à savoir qu'effectivement il a voulu faire une animation pour ne pas avoir à faire jouer la Shoah, enfin la destruction des Juifs d'Europe, qui lui paraissait un petit peu indécent de faire jouer ça. C'était un point de vue qui est respectable, évidemment. On parle jamais de juifs, on parle des sans-cœurs. Il y a une espèce de peu de choses sont nommées, ça reste un conte. Mmh. Et ça donne, donc, entre l'animation et cette généralité que ça garde, ça porte l'événement à la hauteur de la légende, quoi. Et avec cette atmosphère infernale qu'on ressent quand on est près de la cabane du bûcheron, on a l'impression d'être enfermé dehors. Et c'est une figure un peu de l'enfer, c'est-à-dire d'un lieu où on peut pas se débarrasser du mal, quoi, en quelque sorte, voilà. Mais justement, ils arrivent à s'en débarrasser. Mmh. Parce que justement, il y a des justes qui ménagent une petite brèche dans cet univers authentiquement étouffant, quoi. Mmh. Voilà.
On restera là-dessus, sur cette brèche, sur cette lumière. La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius est à voir à Aubenas en ce moment, à Rosières la semaine prochaine, et il sera au Vence fin décembre. Juste avant de nous quitter, un petit mot sur le Regain du Teil qui participe cette année aux saisons Hanabi, qui est un événement national et qui propose pendant 7 jours 7 avant-premières de films japonais qui sont encore exclusifs en France. Et donc là, simplement pour vous citer, les prochaines séances, c'est demain soir, en boucle, de Yunta Yamaguchi. Dimanche, ce sera Le Joueur de Go. Lundi, Jusqu'à l'aube. Voilà, et il y en aura d'autres. Et il y aura aussi le film surprise, et ça, il sera dans d'autres cinémas. Le film surprise, vous connaissez le principe, choisi par l'association des... Aide-moi.
Alors, c'est l'Association française du cinéma et essai. Et moi, je peux vous donner un petit indice sur le film surprise de Doussas de mardi. Oui. C'est un film qui est passé aux Rencontres.
Ah, qu'on a peut-être plébiscité.
Il y avait quand même beaucoup d'avant-premières aux Rencontres. Donc, c'est un film des Rencontres.
Donc c'est mardi. Merci beaucoup pour l'indice. Merci beaucoup pour l'indice. Donc ce sera mardi. Donc,
c'est le cinéma de Lussas.
Film surprise, celui-là, voilà. Au cinéma de Lussas. Merci beaucoup à tous les quatre, à tous les cinq avec Sylvain pour cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Cinémascope. Et puis en attendant, bon cinéma. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Bon, alors maintenant on met la caméra au milieu. Voilà, on va faire ça. Oui, ça va. Alors la caméra.